Tardez à regarder dans vos Bibles en Éphésiens chapitre 4 et au verset 7. On va lire le verset 7 tout d'abord. Il est écrit « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » Et pour lire dans le contexte, comme ça fait un moment que nous avons regardé l'Épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul au chapitre 4, après avoir, dans les trois premiers chapitres, décrit ce que nous sommes en Christ et qui nous sommes en Christ, nous exhorte à marcher d'une façon digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et nous avons regardé ensemble ce qu'est une marche digne, ce qu'est la marche en toute humilité, ce qu'est la marche avec douceur, ce qu'est la marche avec patience, ce qu'est la marche avec amour, ce qu'est la marche avec la paix. Tout cela pour introduire en fait le passage du verset 4 à 6 où il est question ici de l'unité du corps de Christ. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Et on voit ici la vision que nous donne Dieu ici de l'Église, du corps uni, formant un même assemblage sous le regard du Christ souverain. Et au verset 7, nous avons ici l'emphase sur l'individu. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Et nous regarderons plus tard verset 8. Et 9 et 10, et puis nous recommencerons verset 11 et toute l'exposition au sujet de ce qu'est le corps vivant en pleine croissance spirituelle et en nombre. J'aimerais vous laisser vous poser plutôt une question ce matin. Est-ce que vous avez déjà reçu des cadeaux? Non, je ne dis pas que vous avez déjà reçu des cadeaux pour Noël, même si on est proche de Noël, à moins que vous avez déjà commencé à être gâté et puis que vous avez déjà reçu des cadeaux. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de recevoir des cadeaux et de ne pas savoir quoi en faire? C'est terrible cela. Alors qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Eh bien, on peut le mettre de côté, peut-être parce que ça ne nous plaît pas ou parce qu'on n'en a pas d'utilité ou parce qu'on a déjà un cadeau comme ça. Ma femme et moi, nous avons reçu à notre mariage 7 horloges. On s'est demandé si Dieu ne voulait pas qu'on apprenne à être à l'heure. Mais en fait, 7 horloges dans la maison, ça faisait un peu trop, surtout que nous logions dans un petit appartement. Mais voyez-vous, la différence, et peut-être alors que quand on a un cadeau trop, on peut le donner à d'autres. Mais la différence avec Dieu, c'est que quand Dieu donne un cadeau, c'est qu'on en a vraiment besoin. Dieu ne donne jamais un cadeau dont on n'a pas besoin. Et ce matin, nous allons regarder ensemble ce qu'il dit au sujet de la grâce. Quel beau message! Combien c'est précieux la parole de Dieu! Combien on peut se réjouir de lire les Écritures, d'être nourri de la parole de Christ! Quelle profondeur, quelle richesse dans cette parole et quelle grâce de le connaître! La Bible dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Quel message ce matin! Tout d'abord, on a déjà esquissé rapidement pour nous rappeler ce que nous avons déjà vu, ou pour certains d'entrer dans le train déjà en marche, que Dieu a une vision de l'unité du corps de Christ. Mais vous savez, Dieu est tellement riche. Et même quand on vit notamment au Canada et qu'on est, enseveli par des mètres de neige jour après jour et en grand nombre, savez-vous qu'il n'y a pas un flocon qui soit le même? C'est prouvé cela. Il n'y a pas un brin d'herbe qui soit exactement le même. Dieu aime la variété. Oui, une église unie, mais pas l'uniformité. Dans l'uniformité, mais dans la variété. Dieu veut unir tous ses enfants, et la Bible dit qu'il a formé un seul corps, parce qu'il nous a baptisés en un seul esprit pour former un seul corps, et cet esprit nous unit tous ensemble. Mais en même temps, Dieu s'intéresse à chacun de nous. L'Église est une organisation, mais bien plus, c'est un organisme uni à la tête de celui qui est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. En fait, j'aime bien dire que l'Église est un organisme organisé, parce que quelque part, nous avons aussi besoin d'être organisés. Alors parfois, les Églises, et que Dieu nous garde dans notre Église, de vouloir tout uniformiser, et ainsi que tout le monde semble être identique et se ressembler les uns les autres à tel point qu'on serait presque des sœurs et des frères jumeaux. Dieu aime la variété. C'est pour ça ici qu'il commence dans ce texte, mais une conjonction qui introduit une autre notion après l'unité du corps, c'est que Dieu s'intéresse à l'individu. Je me souviens un jour, je parlais avec un oncle qui a une certaine foi, on va dire. Il me dit, mais non, mais Dieu est tellement assez occupé là-haut dans le ciel, il nous voit comme une masse et un ensemble, n'est-ce pas, le monde. Mais savez-vous que Dieu a des yeux tellement perçants, il a un télescope tellement puissant qu'il arrive à connaître jusqu'au nombre de nos cheveux. Il n'y a pas un être, une créature sur la terre qui ne soit connue de Dieu dans ses fibres les plus intimes, ses faiblesses, ses difficultés, parce que Dieu est amour. Il nous a créés avec des yeux d'amour et il garde un regard d'amour envers ceux qu'il a créés. Alors, il y a ici une notion qui commence à être donnée dans ce passage, après l'unité du corps, c'est la notion de la diversité. Quand Dieu parle de chacun, c'est que Dieu s'intéresse à chacun, donne des dons, on va le voir, à chacun, mais il y a toujours un équilibre à trouver dans l'Église, entre l'unité que Dieu déclare que nous sommes, et la variété de chacun, l'unité de l'Église et l'unicité de chaque croyant, dont l'Église a besoin de trouver un équilibre et toujours en recherche entre l'unité et la diversité. Lorsqu'on veut être trop uni, on peut être tellement chacun identique qu'on perd sa diversité. Et lorsqu'on veut tellement être divers que parfois on oublie qu'on doit rester ensemble, un corps uni. Donc voyez-vous, Dieu cherche parmi nous à créer un équilibre entre l'unité et la diversité. Quelle profondeur d'entendre cela ce matin, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Quel contraste avec le verset 6 où il est question du tous ici, parce que l'accent est mis sur une relation personnelle avec Dieu, par grâce. J'aimerais vous poser une question ce matin. Est-ce que vous êtes sauvés par grâce? Il y a beaucoup de religions dans le monde qui ont des plans de salut, qui essayent d'expliquer aux hommes que s'ils font des œuvres et s'ils essayent de faire des choses pour plaire à Dieu, peut-être Dieu agréera-t-il leurs œuvres. Alors que Dieu a déjà tout accompli et que Dieu s'est manifesté à la croix pour nous faire profiter de sa grâce. J'aimerais, si vous me permettez, tourner dans ma Bible, vous n'avez peut-être pas besoin de tourner dans la vôtre rapidement. 1 Corinthiens 12:7 dit ceci, « Or à chacun la manifestation de l'Esprit donnée pour l'utilité commune. » À chacun. Dieu a établi un corps dans lequel chacun a une place et il y a une place pour chacun. Dieu a donné à chacun, pour celui qui est sauvé par grâce, la manifestation de l'Esprit. Et au verset 11, il est écrit « Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Et au verset 27 de ce chapitre, il est écrit « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » C'est extraordinaire. Je connais un petit peu le bâtiment, en tout cas, un petit peu. Ce qui se passe dans un bâtiment, c'est qu'à un moment donné, chaque chose doit avoir sa place. Si vous commencez à enlever quelques briques d'un mur, quelques poutres par-ci, par-là, quelques tuiles, vous allez avoir des fuites, votre bâtiment va s'écrouler. Si les fondations ne sont pas solides, alors là, c'est la catastrophe. Voyez-vous, Dieu a un plan pour son Église. Il n'a rien laissé au hasard. Et si Dieu vous a donné son esprit, et que vous avez été touché par grâce, et que vous avez un don spirituel parce que vous l'avez, vous avez une place particulière que personne d'autre ne peut remplacer. Si quelqu'un ne se laisse pas saisir par l'Esprit de Dieu pour jouer son rôle à l'Église, eh bien il y a un vide. C'est le vôtre, c'est le mien, si je ne suis pas à ma place. Parce que Dieu a prévu que chacun soit à sa place. En 1 Corinthiens 12, on voit tout d'abord que Dieu parle de chacun avec un don particulier, et puis Dieu décrit le corps. Et en Éphésiens chapitre 4, c'est l'inverse. Dieu commence par le tous, le corps, et puis s'intéresse à chacun pour arriver plus tard, finalement, à la croissance collective. Le mot grâce se trouve plusieurs fois dans l'épître aux Éphésiens. C'est toujours bon, quand on étudie la Bible, d'étudier par le principe des passages parallèles, et surtout, quand on étudie un livre, de regarder le même mot dans le même livre et le même contexte pour lequel le livre a été écrit. Alors, je vous invite à regarder avec moi, on va faire un petit exercice ce matin. Vous allez prendre l'épître aux Éphésiens, on va commencer au chapitre 1, et on va voir toutes les fois où le mot grâce se situe dans ce livre. En Éphésiens, chapitre 1, verset 2, tout d'abord, il est mentionné que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Souvent dans les Écritures, quand on introduit les Écritures, les Épîtres, les auteurs en tout cas, parlent de paix et de grâce, que la grâce et la paix vous soient données. Et on prend ça comme une espèce de bénédiction. Mais j'aimerais vous poser une question. Est-ce qu'on vit vraiment de la grâce, jour après jour? Est-ce qu'on vit vraiment de la paix de Dieu? Est-ce que nous sommes remplis en tant qu'enfants de Dieu de la paix de Dieu? Est-ce que vraiment nous sommes des hommes et des femmes de Dieu remplis de sa grâce, remplis de sa paix? Mais Dieu veut vous la donner, veut nous la donner à chacun de nous, la grâce et la paix, et de façon quotidienne, pas de façon sporadique, dans les moments où on aurait particulièrement besoin de sa grâce et sa paix, ce que Dieu peut faire. Mais Dieu a à sa disposition toute sa grâce, parce qu'il est grâce, toute sa paix, parce qu'il est paix, envers chacun de nous, ses enfants, au travers de toutes circonstances, de toute épreuve. Verset 6, il est écrit « Pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. » Verset 7, « En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. » Nous commençons à toucher le sujet. Sa grâce est glorieuse. Sa grâce est riche. C'est au moment où peut-être on désespère de soi, où on se dit « Mais où est Dieu? Qu'est-ce qu'il fait ?» Que la grâce est toujours là encore, comme une fontaine abondante de ses eaux profondes, de sa richesse, de sa grâce, qu'on peut aller puiser, parce que sa grâce est riche, infinie. Verset 16, il est écrit, « Je ne cesse de rendre grâce. » Évidemment, l'apôtre Paul, plein de grâce et connaissant la grâce de Dieu, est rempli d'actions de grâce envers son Seigneur. Chapitre 2, verset 5, il est écrit, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. On voit ici toute la plénitude du salut, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Vous savez, il y a combien de gens qui essayent de se sauver aujourd'hui dans ce monde? Il y en a beaucoup, hein. Eh bien, la grâce est un don immérité. Charisma dans le grec. C'est un don. C'est un don qu'on ne mérite pas. Un charis qu'on ne mérite pas parce que ça vient de Dieu. Combien de hommes essayent de plaire à Dieu alors que Dieu lui s'est donné? Ça fait partie de la grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et nous pouvons nous réjouir de cela. Chapitre 3, verset 2. Si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. L'apôtre Paul avait un ministère de grâce envers les croyants d'Éphèse. Il dit au verset 7, « dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu. » Verset 8, « à moi qui suis le moins de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. » On est sauvé par grâce, on est béni par grâce, on est plongé dans sa grâce et on sert Dieu par sa grâce. Dieu nous donne le don spirituel pour le saisir, pour le don de la vie éternelle. Il nous donne le don spirituel pour saisir la vie en lui, et ensuite il nous donne la capacité, le don de le servir, parce que par soi-même, on n'en a pas. Écoutez, je confesse ce matin que la grâce est un sujet que j'ai besoin d'approfondir dans ma vie jour après jour, et que je commence, il me semble, à peine à découvrir, de vivre de la grâce. C'est tellement plus agréable de vivre par la grâce que par soi-même. Mais quel besoin de s'humilier devant Dieu pour reconnaître qu'on n'est rien. Sans moi, vous ne pouvez rien faire pour laisser la grâce couler, parce que bien souvent, c'est le moi, c'est le canal du moi, de l'ego, qui fait obstacle à cette grâce, qui pourtant est le don de Dieu qui veut nous être accordé jour après jour pour nous, ses enfants, de vivre, d'être sauvés par grâce et aussi de vivre par sa grâce, comme il est écrit au verset 7. Et puis, verset 29 du chapitre 4, je vous le lis, « Ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Écoutez, les enfants de Dieu, quelque part, si on est rempli de la grâce, on devrait être gracieux. Ça devrait s'entendre dans nos paroles, ça devrait se voir sur nos visages, ça devrait se refléter dans nos comportements. Est-ce que nous vivons de cette grâce? Est-ce que nous la communiquons en tous et chacun autour de nous, parce que, eh bien voilà, nous sommes habités de la grâce de Dieu. Les yeux fixés sur Jésus-Christ qui est venu sur cette terre, pleine de grâce et de vérité. C'était une grâce que Dieu le Père envoie son Fils sur la terre. C'était une grâce que le Seigneur Jésus-Christ accepte de descendre du ciel, de perdre sa gloire, de se revêtir de la forme d'un homme, de venir comme serviteur en obéissant de Dieu le Père et en obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'était une grâce pour lui de vivre sur cette terre, d'endurer les blasphèmes, la résistance, l'incrédulité. C'est une grâce qu'il a eue de mourir sur la croix. C'est une grâce qu'il a maintenant de nous aimer, nous les pécheurs, de venir nous visiter dans l'habitude de nos péchés, de nos pensées mauvaises et actions mauvaises, nos comportements qui lui déplaisent, parce qu'il est saint. C'est une grâce qu'il soit venu habiter parmi nous, nous les pécheurs. C'est une grâce qu'aujourd'hui, il nous fait d'être sauvés. C'est une grâce qui nous a revêtus de son esprit, scellés du Saint-Esprit, qui continue à vivre dans nos corps et nos êtres qui pourtant sont bien pécheurs. C'est une grâce qui nous fait de vivre parmi nous, pécheurs. C'est une grâce qui nous a donné de son esprit. C'est une grâce qui fait que nous nous réjouissons en espérant d'être en route pour le ciel, d'être scellés et d'être marqués par lui à jamais. C'est une grâce de vivre par la grâce, je dirais. Est-ce que nous sommes prêts à vivre de cette grâce? La grâce de marcher avec lui, la grâce de vivre et de rester ferme dans cette grâce. Et la Bible dit que cette grâce nous a été donnée à chacun selon la mesure du don de Christ. Il n'y a pas de grâce sans don. La grâce est donnée. C'est extraordinaire parce que Dieu qui est plein de grâce, il nous fait plein de grâce, il nous remplit de ses bénédictions, il nous donne grâce sur grâce, mais il fait une chose extraordinaire, c'est que lui-même se donne. La grâce se donne toujours. Mais là, c'est le don de lui-même en Jésus-Christ. Il est venu sur la terre et Jésus-Christ est venu sur la terre pour enseigner ses disciples. Il est venu sur la terre pour guérir les malades. Il est venu sur la terre pour libérer les prisonniers, même les démoniaques. Il est venu sur la terre pour pardonner aux pécheurs que nous sommes. Il est venu sur la terre jusqu'à la mort de la croix du calvaire. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. C'est incroyable cela. Je regarde à Dieu, et Dieu s'est appauvri pour venir habiter parmi nous, afin que nous soyons enrichis. C'est le don de la grâce qui se donne lui-même. Donc je crois qu'il y a une première application ici qu'on doit faire. Si je suis habité la grâce de Dieu, je dois donner. D'ailleurs, la Bible dit qu'il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je dois vivre pour les autres. Je dois vivre pour mon Dieu. Je dois cesser de vivre pour moi parce que je suis crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je suis habité de ce don de Dieu qui est la grâce, je vais me donner gracieusement aux autres. Ce ne sera plus un devoir, une contrainte, un acte religieux, mais ce sera une joie de me donner au Seigneur tout d'abord. Parce que c'est une grâce qui me visite, et la grâce de me donner, c'est extraordinaire. Il faut qu'il croisse et que je diminue, afin que cette grâce abonde et que je puisse me donner aux autres. C'est merveilleux dans l'Église de Christ. Ça fait quelques années que je suis là, que j'observe certains fidèles maintenant depuis quelques années, et de voir la croissance, le don de soi, l'amour des autres. Oh, ça me touche profondément cela. Quand je vois un chrétien mûrir, apprendre à vivre pour les autres, à se donner dans son temps, son argent, ses occupations, de commencer à vivre pour les autres, de faire confiance au Seigneur. Et en se donnant, on reçoit tellement. Et on est tellement comblé par Dieu. C'est vrai, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donner. Ah, reprenons l'épître aux Éphésiens. Donner, chapitre 1, verset 2. Dieu donne. Béni soit le Dieu de Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle en lieu céleste en Christ. C'est incroyable. Christ est riche. Et puis quand il donne tout. Il donne tout. Il a envie de tout donner. Et il s'est donné non seulement à la croix, mais non, dans les cieux, il donne ses bénédictions extraordinaires. Il a à cœur de partager ses bénédictions. Eh bien, la main de la grâce, de l'humilité, c'est pouvoir l'ouvrir et recevoir les bénédictions. Tandis que la main de l'orgueil est souvent fermée, elle est incapable de recevoir le don de Dieu. Parce qu'elle les regarde à elle-même. Centré sur soi, moi d'abord. Mais la main de l'humilité s'ouvre pour recevoir la grâce de Dieu et les bénédictions qui sont là extraordinairement riches, renouvelables chaque jour, car ta bonté se renouvelle tous les matins, nous dit la parole. Verset 17, il est écrit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Vous avez un besoin particulier de guérison, de délivrance, un besoin particulier matériel, spirituel, physique, Dieu est là. Ayons confiance en sa grâce. Vous avez peut-être une difficulté dans votre travail, allez à la source de toute grâce. Vous avez une difficulté dans votre foyer, allez à la source de toute grâce. Et Dieu va vous faire grâce parce qu'il prend plaisir à la miséricorde, à donner. La grâce se donne constamment et Dieu, qui est un Dieu de grâce, nous fait grâce constamment. Il donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance afin d'illuminer les yeux de notre esprit spirituel pour contempler la source de toute grâce, le Seigneur Jésus-Christ. Au verset 22, il est écrit, il l'a mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Dieu a donné son Fils Jésus-Christ. Et ce verset que nous sommes en train de voir ici, et à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ, ce n'est que les premiers mots de notre Seigneur envers son Église. On va regarder plus tard tout ce que ça, en quoi ça consiste, le fait que Dieu donne constamment en son Église, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son Esprit dans l'homme intérieur. Nous avons besoin, tant qu'enfants de Dieu, parce que, eh bien, dans une nature pécheresse, parce que dans un combat spirituel, nous avons besoin de fortifier par son esprit dans l'homme intérieur, renouveler, et Dieu veut nous donner selon la richesse de sa gloire. Au moment où nous pensons avoir reçu peu, Dieu voudrait nous donner beaucoup plus. Eh bien, nous pouvons le rendre grâce pour ça, lui rendre grâce. Chapitre 4, et verset 11 encore, il est écrit, « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Dieu veut donner merveilleusement. Il donne des dons d'hommes doués dans son Église. Et c'est des dons gratuits, des cadeaux que Dieu donne. Et puis, chapitre 6, et verset 23, il est écrit que la paix, l'amour avec la foi soient donnés aux frères. Alors, voyez-vous, Dieu constamment donne. Et nous, qu'est-ce que nous donnons? Nous pensons venir à l'Église le dimanche matin. Ah, je donne du temps au Seigneur le dimanche matin. Et parfois, nous n'arrivons même pas à l'heure. Heureusement que le Seigneur est omniprésent. Hein, on peut le louer partout, le Seigneur. C'est ça qui est merveilleux. On peut vivre de sa grâce, mais partout, partout. Mais pas simplement le dimanche matin. Dimanche après-midi, dimanche soir. Tiens, le lundi matin, il faut reprendre la journée et la semaine. Ah ben, la grâce est là aussi. C'est merveilleux. Dieu veut nous donner. Est-ce que nous sommes riches? Est-ce que notre Église est riche de la présence de Christ pour pouvoir donner aux frères et sœurs et donner à ceux qui nous entourent dans la semaine? Est-ce que nous ressentons la présence de Christ, cette profondeur de la bonté de Dieu? En 2 Pierre, il est écrit ceci, et je vous le lis, c'est un beau passage. 2 Pierre 1, Et chapitre 1, donc versets 3 et 4, sa divine puissance nous a donné encore le don, c'est extraordinaire, ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Ça vous arrive parfois de traverser des tunnels et puis le cœur semble sec devant Dieu. Dites, Seigneur, mais où es-tu? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Où es-tu? Et puis d'aller au pied de la croix, d'être purifié, lavé, sanctifié, d'être rempli à nouveau, parce que c'est celui qui nous donne tout ce qui contribue à la vie, à la piété. La vraie piété, la piété qui est l'amour de Dieu. Car il n'y a pas de vraie foi, de vraie piété sans l'amour de Dieu. On va continuer et regarder donc la deuxième partie de ce verset. Sachons-nous, la grâce, on en a parlé, a été donnée selon la mesure du don de Christ. Selon la mesure du don de Christ. Est-ce qu'on peut penser que Christ est limité? Est-ce qu'on peut penser que la mesure qu'il nous donne est limitée? Attention, c'est une question piège. Parce que la réponse est oui. Bien sûr, Christ est illimité. Mais quand il est question ici de la mesure du don de Christ, il fait un don à chacun. Ça veut dire que je n'ai pas tous les dons. Amen. Ça veut dire que les autres ont des dons que je n'ai pas. Amen. Ça veut dire que les autres peuvent exercer des ministères que moi je suis incapable d'exercer. Amen. Est-ce que vous l'exercez, votre ministère? Parce que si vous êtes le seul capable à l'exercer, si vous ne l'exercez pas, eh bien, les autres attendent que vous l'exercez. Je dis ça une fois dans un message, mais c'est vrai, on ne voit jamais quelqu'un rempli du Saint-Esprit sans être utilisé par Dieu. C'est notre devoir, quelque part, de nous soumettre à Dieu, d'être rempli du Saint-Esprit pour être utilisé. Mais voyez-vous, c'est Dieu qui a mesuré l'exacte proportion donnée à chacun. Il est souverain. Et cela m'humilie. Parce que ça veut dire que si Dieu m'a donné un don, c'est par pure grâce, mais il me donne aussi, seulement par sa grâce, la capacité de l'exercer. Et je dois accepter aussi la limite de ce don. Par exemple, quelqu'un va dire, oui, moi, je n'ai peut-être pas le don de prêcher, d'enseigner. Attendez, l'enseignement peut revêtir beaucoup, beaucoup de facettes. Il y a ceux qui enseignent du 1 à 1, ceux qui enseignent l'école d'image, ceux qui enseignent des groupes de dames, de maisons, ceux qui enseignent instruction par l'étude biblique, ceux qui prêchent. Le don a une variété extraordinaire. Et c'est pareil dans chaque don. Ce qui est merveilleux, c'est que Dieu nous demande d'exercer notre don. Et en 1 Pierre, je vous le lis, 1 Pierre 4, verset 10, je pensais le connaître par cœur, mais pourtant, oui, c'est ça, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Ce verset est très fort, de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Un enfant de Dieu est béni. C'est extraordinaire. On n'est plus sous la malédiction, on est sous la bénédiction. Il faut se lever le matin et crier à Dieu et louer Dieu parce qu'on est sous sa bénédiction. Et on doit être des bons dispensateurs, des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous, le chacun ici, est important, mette au service des autres le don qu'il a reçu. Autrement dit, Dieu donne pour qu'on donne. C'est extraordinaire ça. Il faut que dans nos cœurs, il y ait comme une fontaine d'amour qui jaillit pour donner l'amour aux autres. Une fontaine de joie qui donne la joie aux autres. Une fontaine de libéralité qui donne aux autres. Une fontaine de générosité et de disponibilité. Et c'est Dieu qui peut le faire en nous. C'est Dieu qui a cette mesure en nous, selon les dons. Alors juste dire ceci. Il y a plusieurs termes grecs pour parler de dons, et j'aimerais qu'on les regarde ici ce matin pour terminer. Le don de Christ, ici, c'est doréa. C'est l'accent mis sur la gratuité de don. Le don de Christ. Dieu s'est donné. Le don de Christ, c'est un don qu'il donne et c'est gratuit. Et il s'est donné lui-même. Il y a à la fois le fait qu'il s'est donné et puis qu'il donne des dons aux autres. Il y a aussi dans le grec, Romains 6, 23, par exemple, qui dit « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. » Ça, c'est au singulier, c'est le charisma, le don gratuit. Mais il y a aussi au pluriel les dons spéciaux, les dons différents, qu'on appelle dans la langue originale charismata. Regardez avec moi par exemple Romains 12 verset 6. Peut-être avons-nous besoin de à nouveau rappeler ce que sont les dons. Romains chapitre 12 verset 6. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie. Et voilà, nous avons ici une liste qui nous parle de la variété des dons, et on le regarde ensemble si vous voulez bien. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Voilà, des dons, verset 6, différents. Des dons spéciaux et différents que l'on retrouve en 1 Corinthiens chapitre 12, et c'est le passage par excellence des dons. Si vous voulez tourner en 1 Corinthiens chapitre 12 et verset 4, il est écrit « Il y a diversité de dons, mais le même Seigneur, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. » Et puis nous avons la liste à partir du verset 8. « En effet, là, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Donc on a ici toute une liste de dons. Comment Dieu s'y prend-il? Alors je vais donner une illustration qui est, comme toute illustration, qui est limitée, mais il y a quand même une vérité. Vous aimez peut-être la peinture, enfin, c'est beau la peinture, non? Vous aimez ça faire la peinture? Vous avez une palette de couleurs, et avec des couleurs de base, on peut arriver à toutes sortes de variétés de couleurs. C'est extraordinaire cela. Il faut être peintre pour prendre le pinceau et savoir, pour faire un tableau, prendre quel type de couleur, et sur la palette, on fait des mélanges. Vous avez remarqué? Le peintre, il fait des mélanges, et puis, quand on le regarde, on ne sait pas trop où est-ce qu'il s'en va, mais lui sait où il s'en va, et puis il commence à peindre des touches par-ci, par-là, il rajoute quelques couleurs, il peut même changer, si c'est la peinture à huile, l'aquarelle, c'est fini, si vous trompez de couleur, mais la peinture à huile, vous arrivez à changer un petit peu les couleurs, etc. C'est extraordinaire, ça. Et puis, ce bon mélange de couleurs, de variété dans les couleurs, ça fait un tableau. En principe, un beau tableau. Moi, je pense que Dieu agit comme ça. Voilà, il y a son pinceau divin, et puis il prend un peu de couleur, tiens, par-ci, par-là, comme on l'a vu hier soir, et puis il commence à mélanger les dons, les couleurs des uns et des autres, et puis ça arrive à faire un tableau qui reflète son plan divin. C'est merveilleux, cela. Alors, vous êtes une de ces couleurs. Et si Dieu vous mélange avec quelqu'un d'autre dans l'Église, mais laissez-vous faire, peut-être favoriser la communion fraternelle, favoriser les échanges, les prières les uns des autres. Dieu fait un tableau extraordinaire en mélangeant les couleurs et croyez-moi, il sait ce qu'il fait. Regardez la beauté de la création. C'est un peintre extraordinaire. C'est le créateur. C'est plus que c'est le créateur. Et il sait ce qu'il fait. Est-ce que nous arrivons à comprendre le plan de Dieu et à nous y soumettre et à le vivre? Mais, voilà, Dieu s'adresse à l'individu, à chacun de nous. La grâce a été donnée. Est-ce que nous réalisons cette grâce selon la mesure à un don particulier, limité aussi dans ce don, reconnaissons-le, du don de Christ qui est un don total, celui qui est le maître des dons, nous donne afin qu'on donne aux autres. Est-ce que nous allons vivre pour les autres avec les dons que Dieu nous donne, ou est-ce que nous allons les enfouir et finalement priver l'Église de la beauté du tableau divin qui est son œuvre, son chef-d'œuvre éternel? Prions, s'il vous plaît. Ô notre Père céleste, merci de ton chef-d'œuvre qu'est l'Église. Merci de ton chef-d'œuvre qui a fait de nous des nouvelles créatures. Nous sommes indignes, mais tu nous as rendus dignes. Nous avons été lavés, purifiés, transformés. Gloire et louange se soient rendus. Merci Seigneur de ta bonté dans nos vies. Merci de ces moments ensemble autour de ta parole. Nous nous réjouissons Seigneur du don de la grâce. Et nous confessons notre besoin d'apprendre de vivre cette grâce, Seigneur, infinie. Aide-nous, Père. Aide-nous, gracie-nous en Christ, toujours et constamment. Nous te le prions, Seigneur. Amen.